du pont. Bon, alors je tiens tout d'abord à dire que c'est une œuvre collective. Collectif, ça veut dire qu'il y a Gérard Boucher, mais il y a également Christophe Ehorne, qui a énormément contribué à nous présenter, à faire que pratiquement, nous espérons fin août, que les trois volumes seront édités. Je ne sais pas encore, parce que nous discutons d'un lien avec la DGESCO, parce que vous allez voir que certains aspects que je vais aborder sont déjà aussi en partie abordés par la DGESCO. Je crois que le mieux, c'est de faire la jonction. Hein. Donc, mon objectif, de toute façon, alors là, je dis mon, c'est que pour la rentrée prochaine, nous ayons un ouvrage pédagogique pour l'ensemble du secteur éducatif. Voilà. Hein, et quand je dis l'ensemble du secteur éducatif, c'est-à-dire de la maternelle à l'université. Alors, donc, c'est un guide pédagogique qui est une sorte de boîte à outils pour apprendre à penser et à agir pour la défense de la laïcité. C'est donc un travail qui a été fait à l'initiative de deux associations, l'OLPA, l'Observatoire de la laïcité de Provence, et du GERFLINT. Il reprend en partie les supports remis aux enseignants et aux CDI dans le cadre d'activités pédagogiques initiées par Robert Lasnec, membre de l'OLPA. Je le signale parce que ça veut dire que tous les documents que nous mettons dans cet ouvrage ont été testés. Hein, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ces documents, bien entendu, ont été enrichis par de nouveaux apports d'origine très différentes et de statuts différents, des séquences pédagogiques, des extraits de manuels, des BD, des fiches pédagogiques, des diaporamas. Ils sont donc, je le répète et je tiens vraiment à le dire, le fruit d'une œuvre collective avec la participation de professeurs de lettres, agrégés du secondaire, de collaborateurs extérieurs. Et je voudrais aussi, je sais que ça a été annoncé comme tel, l'esprit et la démarche de ce guide pédagogique, je sais qu'il y a débat là-dessus, hein, notre démarche consiste à défendre une laïcité, sinon universelle, du moins universalisable. Alors, je vais vous décrire très rapidement les trois tomes. Vous allez avoir après des illustrations, donc ça sera un petit peu plus digeste. Le tome 1, vers une définition commune de la laïcité, c'est-à-dire ses sources historico-juridiques, ses thématiques philosophiques, égalité, fraternité, universalité. Donc, dans cette première partie, nous souhaitons en souligner en quoi la laïcité, principe qui est au cœur de notre identité nationale, est une notion très complexe qui s'est construite historiquement et qui continue à se construire. Le tome 2, c'est la laïcité en action ou bien la laïcité au quotidien. Dans cette deuxième partie, nous offrons donc une première section avec des textes significatifs qui permettent de définir plus rigoureusement les domaines de mise en œuvre de la loi. Alors, tous les domaines, bien entendu, ça peut être l'école, ça peut être l'hôpital, les communes, les services publics, le monde de l'entreprise. Une deuxième section de ce tome 2, intitulée « La laïcité inachevée », aborde les limites et les remises en cause de la laïcité, notamment dans certains domaines où son application reste défaillante et qui concerne, entre autres, eh bien, vous en avez entendu parler hier, la science, hein, qui concerne notamment la bioéthique, qui concerne l'émancipation des femmes, qui concerne le monde du travail, qui concerne bien sûr l'Europe et le reste du monde. Vous voyez que nous essayons d'être exhaustifs. Bon, nous assumerons certains silences, hein, mais nous nous sommes efforcés d'être le plus complet possible. Le tome 3, c'est celui qui sera le plus illustré dans cette présentation. Nous sommes, alors là, c'est peut-être moi et Gérard Boucher, hein, qui parlons à titre personnel, nous sommes pour un engagement militant de l'enseignement-apprentissage de la laïcité. plus précisément pour une formation à une éthique et une pratique laïque, essentiellement en milieu éducatif. Il a fallu faire un choix, donc c'est le secteur éducatif, mais vous avez compris, c'est dans tous les domaines. La raison d'être de ce troisième volume se propose de mettre à l'ensemble du monde éducatif, éducateurs, mais aussi formateurs du monde associatif, hein, ça c'est très très important, des documents et outils pédagogiques susceptibles d'être utilisés dans différents domaines disciplinaires. Alors là, c'est là que la jonction avec Alain Bidard, pour moi, est très importante. Voilà, j'espère que suite sera donnée à cette proposition. Alors, je vais commencer par le tome 1. Le tome 1, donc, nous rappelons en préambule que derrière les valeurs laïques, aujourd'hui s'affirment nombre de positions diverses et contradictoires. Hein, faut-il, par exemple, que l'État participe ou non au financement des lieux de culte ? On en a débattu hier. À l'origine de ces incertitudes, nous avons chaque fois des textes clés, hein, avec des encadrés où nous présentons les textes. Nous avons le texte de Gérald Delfaux ou celui de Clément Durand. Tous deux soulignent, avec leurs nuances bien entendu, que la laïcité n'est ni une doctrine, ni une théorie, mais plutôt une attitude de l'esprit et une règle de comportement en société. L'esprit laïque ne considère pas les vérités du moment comme des absolus et des vérités intangibles. Toutefois, historiquement, l'idéal laïque se confond avec le mouvement de la société civile qui met en place dans le domaine du pouvoir politique la garantie juridique de la liberté de conscience de chacun et la possibilité de préserver une vraie démarche d'émancipation. Donc, nous allons faire toute une présentation de l'historico-juridique qui va dans ce sens-là. Une première, donc, à définir. Vous savez qu'on n'a pas de définition officielle exhaustive de la laïcité. Mais nous interrogeons l'histoire de l'émergence de cette laïcité dans le domaine du droit public, donc, pour, et bien entendu, aboutir à la loi de 1905. Dans une première section, nous souhaitons présenter la loi, connaître la loi, proposer nombre de documents qui permettent de comprendre toute sa signification, la loi 1905, et toute sa portée. Ça peut être un texte d'Émile Combes, un texte de Jaurès sur la séparation est une exigence de démocratie, un texte de Charles Péguy, qui était chrétien, pratiquant, mais anticlérical. Convaincu au sens où nous l'entendons anticlérical. Une deuxième section, ce sont les sources juridiques de la loi 1905. Alors c'est là qu'avec toi, on aimerait presque, hein, on va peut-être intégrer certains textes. La laïcité comme forme juridique de l'État qui s'enracine dans un mouvement qui peut déjà être dans les premières chartes médiévales qui régulent l'organisation des pouvoirs et qui fixent les libertés individuelles. Donc c'est la grande charte des libertés d'Angleterre en 1215, pour aboutir, mais là je passe bien entendu à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais entre-temps il y aura eu l'édit de Nantes, il y aura eu la Bea Corpus en 1679, je vous signale que c'est la fin en Angleterre du moins de la détention arbitraire des prisonniers. Tous ces textes-là, pour nous, ont de l'importance. Et une troisième section, c'est sources philosophiques. Alors, nous mettons, bien sûr, nous savons que l'adhésion des parlementaires s'est construite par l'apport de l'argumentation de nombre de philosophes. C'est Marcille de Padoue, en 1324, son texte « La loi de Dieu n'a pas force de loi en ce monde ». Ce peut être John Locke, « L'aide sur la tolérance », 1689, Emmanuel Kant, « La religion dans les limites de la simple raison », 1789, Edgar Quinet, La séparation est une nécessité sociétale. Et bien entendu, Auguste Comte, 1854, et son système de politique positive, la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel a été décisif pour l'évolution des sociétés humaines. Ça, c'est donc notre première partie. Deuxième partie, la loi de 1905 et ses valeurs de référence. Et là, on est, hein, quand on a parlé hier toute la journée des fondamentaux, eh bien nous y sommes avec les fondamentaux. La loi 1905 est porteuse de valeurs de référence en ce qui concerne, d'une part, les fondements des droits individuels à l'autonomie et à la liberté. Deuxièmement, l'organisation sociale. Troisièmement, l'État. Quatrièmement, la morale. Et chaque fois, nous donnons des textes avec des encadrés où nous faisons comprendre pédagogiquement ce qu'on va lire. Hein? Pour ce qui est des droits individuels à l'autonomie, bien sûr, je ne vais pas tous les énumérer. Je citerai tout simplement René Descartes, « La capacité d'une volonté bonne existe chez tous », donc un texte qui illustre la confiance en la capacité de chaque individu d'user raisonnablement de sa liberté. Une section 2, alors la section 2, c'est un moment où les cléricaux, leur point de vue, hein, c'est bien de ne pas accepter la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Eh bien, nous avons bien entendu le point de vue des laïcs sur la nature et la fonction de l'État tel qu'il l'hérite dans une longue, très longue tradition intellectuelle. Donc, nous avons des textes. Ceux de Spinoza, le comte de Mirabeau, par exemple, contre la déclaration d'une religion nationale, le Léon Gambetta, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson, pour qui la loi dépend de la raison et d'elle seule. Et puis, nous présentons aussi, nous y tenions, des textes contemporains, donc les textes de Guy Coq en 2005, de Pena Ruiz, qui reprennent la thématique de la consubstantialité du principe laïque et de la démocratie. Une section 3 sur la morale et ses fondements. Hein, il y a une approche laïque de la morale dans le sens de la libre adhésion du sujet à des valeurs déterminées en dehors de tout dogme. Et par le seul effort de la raison qui comprend les conditions d'une vie juste dans le respect des différences individuelles. Là, je m'adresse à Omer. Donc, nous avons des textes de Pierre Bell, nous avons des textes de Condorcet, d'Emmanuel Kant. Je veux simplement citer pour cette section le texte de Alain, que tous vous connaissez sans doute, essayiste militant radical qui redonne à la philosophie de l'éducation toute sa dimension éthique. La laïcité, dit son texte, la laïcité, une morale sans Dieu. Il n'aime pas trop les fausses réconciliations dans les nuages qui gâtent, c'est lui-même qui le dit non sans humour, ce qui gâte la religion, c'est la croyance en Dieu. L'idée d'une vie future qui conduit à tout accepter et à ne rien faire, il n'y a pas d'exemple, là je le cite directement, de justice réalisée sinon par des hommes qui croyaient en eux-mêmes et qui agissaient dans ce monde. Plus tard, je vous parlerai d'une certaine transcendance immanente. Donc, la troisième partie maintenant, ça me permet d'aborder la troisième partie, toutes les résistances et les conflits. Là aussi, j'irai très très vite parce que, mais comme le signale très justement Gérard Boucher, à aucun moment de son histoire, l'Église romaine n'a pu accepter sans combattre d'être destituée du pouvoir de peser sur des décisions politiques et qu'elle estime les siennes. Toute l'histoire de ses relations houleuses avec l'État en apporte la preuve. Je ne vais pas vous énumérer les syllabus, les encycliques, etc. Mais vous connaissez bien celle de Pie X, la séparation est un viol, inviolabilité du mariage chrétien, etc. Bon, en gros, donc là, globalement, les États doivent un culte au Christ roi. Voilà. Alors, il y a aussi, bien entendu, les parlementaires qui accompagnent ces résistances. Au moment des débats sur le projet de loi, vous avez nombre de textes sur ces lois sataniques, nous les présentons et bien entendu, chaque fois, nous représentons les réactions de l'autre côté. Hein. Ça peut être, par exemple, la crise des inventaires et tout qui fait référence quand même aux échauffourées qui ont eu lieu à Paris, en Auvergne et en Savoie, il y a eu mort d'homme. Ce qui a fait dire à Clémenceau, et nous présentons le texte de Clémenceau, la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas les chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. Hein. Voilà. Donc, chaque fois, vous l'avez compris, nous animons propositions, réactions et contre-réactions. Alors, là aussi, synthèse avec des textes contemporains, je m'excuse, là j'aurais pu varier, mais Henri Pénard-Ruiz, la laïcité c'est un idéal politique de concorde et le dispositif juridique qui le réalise. Conclusion. Pour ce premier tome, c'est une loi de bon sens et d'équité, portée par une conception philosophique de l'autonomie intellectuelle et morale de l'homme, et donc des institutions civiles qu'il se donne pour gérer les affaires de son siècle. Il est par conséquent difficile de prétendre l'enfermer dans une seule définition exhaustive et achevée, qui en couvrirait tous les aspects. Mais la laïcité, je tiens à le dire en intégrale, c'est l'affirmation du droit de chacun de croire ou de ne pas croire. Et pour les croyants, la garantie de donner leur Dieu sous la forme qu'ils jugent la bonne, dans la limite toutefois, où ses droits ne nuisent pas à autrui, excision, etc., etc. La laïcité, c'est la confiance faite à l'homme quant à sa capacité d'être acteur de son propre destin, d'où l'importance de l'école et de l'éducation, et cela, être acteur de son destin, en dehors de tous les dogmes et de toutes les injonctions que des pouvoirs constitués pourraient lui imposer. C'était la conclusion de notre tome 1.